Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de célébration ce matin. On veut vraiment vous souhaiter à tous la bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. On veut accueillir l'invité d'honneur ce matin. On veut accueillir celui que nous voulons honorer. On veut honorer ce matin tous ensemble Jésus-Christ. Et on va faire une petite lecture dans Exode au chapitre 15, le cantique de délivrance où on nous dit: Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. C'est ce que nous voulons faire ce matin, commencer ensemble à célébrer Jésus. On va prendre ce chant qui dit: Quelle grâce! Ce chant nous dit que chaque être humain, peu importe son origine ethnique, a de la valeur aux yeux de Dieu, à ce Dieu qui n'a pas hésité à offrir sa vie, son Fils en sacrifice, par amour pour chacun d'entre nous. Alors, qui que nous soyons ce matin, peut-être à votre place, là où vous êtes, devant la télé, devant le petit-déj, simplement vous levez pour prendre ce chant qui dit: Quelle grâce! On veut le célébrer ce matin, quelle grâce!
Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais du même sang, enfants de toute nation, toute génération du règne qui vient.
Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou, amoureux de toi. Prends courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours.
Éternel, que la louange s'élève et les murs s'effondrent.
son nom est Jésus.
Seigneur, que ton règne vienne. Nous voulons t'inviter ce matin, Seigneur, encore à régner. Nous voulons t'inviter, Seigneur, à régner sur le trône, sur le siège de nos cœurs. On est conscient qu'on a tellement besoin de toi, Jésus. Merci parce que ta grâce vient nous chercher, parce que ta grâce nous transporte. Parfois on peut trébucher, parfois on peut tomber. Mais tu es celui qui nous relève. Quel amour extravagant pour chacun d'entre nous. À toi la louange, à toi la gloire, Jésus. Alléluia.
Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour enversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, oh.
Je voudrais pouvoir encourager quelqu'un ce matin avec ce prochain chant qui nous dit que parfois on peut aller au bout de nos ressources, et tant qu'on ne va pas au bout de nos ressources, souvent on ne peut pas saisir ce que Dieu veut faire pour nous. Vous savez, quand quelqu'un est en train de se noyer, on ne peut pas le sauver tant qu'il est en train de se débattre. Il faut attendre qu'il commence à couler pour que le sauveteur puisse le prendre en compte, parce que sinon il le ferait couler avec lui. Et parfois nous, on a besoin d'aller aussi au bout de nos ressources, d'essayer d'aller de nos propres forces. On essaye par tous les moyens d'essayer de faire des choses par nous-mêmes, et puis finalement c'est la grâce de Dieu qui vient nous chercher. Ce chant qui suit, c'est un nouveau chant, vous ne le connaissez pas, mais prenez-le comme un temps de méditation maintenant. Peut-être fermez les yeux simplement et laissez les paroles vous imprégner. C'est un chant qui dit: je viens à toi tel que je suis.
J'étais formé en un instant, j'ai été brisé. J'étais fidèle mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter mais tout s'est effondré. Touchant le sommet, le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner. Garant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Mais chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là.
Tu m'as vu avant que je n'aie m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montras ta grâce et tout ça me dépasse. Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Veuille de ma louange. est sans feuilles et je suis sans voix. Mais chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu portes les marques et tout ça me dépasse. Et je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis, Jésus. Tu m'aimes tel que je suis, un amour éternel. Tu m'aimes tel que je que je suis.
Si tu veux mon cœur,
si tu veux mon cœur, je ne résisterai pas, car ton grand amour, c'est mon seul espoir. Je suis à toi. Ce genre d'amour, pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis.
Je vous invite, pendant que le piano continue à jouer, peut-être là où vous êtes à la maison, de commencer à élever la voix et de prier Jésus, de louer pour sa grâce. Là où vous êtes, on veut prendre juste quelques secondes pour fermer les yeux, le louer, pour l'adorer, pour sa présence dans nos vies. Alléluia Jésus. Merci Père. Merci Père. Peut-être s'il y a un membre de l'équipe de louange qui veut juste élever la voix simplement. Peut-être Léa, si tu veux bien.
Oui, c'est vrai Seigneur, tu nous aimes tels que nous sommes. Et tu nous acceptes tels que nous sommes aussi. Et je te bénis pour cela, Seigneur, parce que ton amour, c'est un amour éternel, c'est un amour inconditionnel. Et je te bénis pour le fait que tu nous aimes, Seigneur. Et c'est tellement bienfaisant de savoir que quand nous nous levons le matin, tu nous aimes, et dans la journée, tu nous aimes, et quand on se couche le soir, tu nous aimes. Et je te bénis pour cet amour, Jésus.
On va continuer ce temps de célébration et d'adoration pour fixer nos regards sur celui que la Bible appelle notre rocher. Et c'est ce qu'on veut proclamer ce matin, Jésus-Christ, mon rocher. Et même si des tempêtes s'abattent sur ta vie, même si l'orage s'abat sur ta vie, il reste Dieu. Il reste Dieu, il reste au contrôle, mon rocher.
Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Revêtu de sainte justice et sans blâme devant son trône.
Alléluia. Merci Jésus parce que nous sommes sans blâme devant ton trône. Parce que le poids de nos erreurs, le poids de nos échecs, c'est toi qui l'as porté sur le bois de la croix. Nous voulons te célébrer ce matin, Père. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité à notre égard, Jésus. Merci parce que sans toi, nous serions déclarés coupables. Mais grâce à toi, Jésus, nous sommes déclarés innocents. Innocents parce que ton sang nous a lavés, parce que ton sang nous a rachetés. On veut célébrer ton nom encore ce matin et on veut le proclamer, Jésus-Christ, mon rocher. Alléluia. Alléluia, tu es roi, tu es le roi de gloire. Il n'y en a pas d'autre que toi, Jésus. Alléluia. Jésus-Christ.
Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout.
Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, avant de prendre et d'écouter le message, pardon, nous allons prendre quelques annonces. Tout d'abord, nous sommes toujours joignables par téléphone et par mail. Alors au téléphone, au 06 28 13 58 51. N'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous vous sentez seul à un moment, si c'est difficile, n'hésitez pas à appeler. L'équipe pastorale est disponible pour vous répondre, pour vous encourager, pour parler avec vous. Vous pouvez aussi nous contacter toujours par mail sur contact@epi-strasbourg.eu. Alors concernant nos cultes, nous devrions redémarrer nos cultes à compter du dimanche 12 juillet et nous vous donnerons les informations au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans les dimanches qui arrivent, nous vous dirons un petit peu la démarche à suivre dans les annonces. Mais sachez, vous pouvez déjà noter que probablement nous reprendrons le 12 juillet à la fin de l'état d'urgence sanitaire. On a également la joie d'annoncer la venue du petit Lewis Moya, donc le fils de Laura et de Sébastien. Donc ils ont la joie d'avoir cet enfant au milieu d'eux et on veut vraiment se réjouir avec eux. Vous savez, dans la vie, il y a des temps de joie et des temps de perte. On a eu un décès, en tout cas dans la proche de l'église de l'Épi, de la famille des gens qui fréquentent l'Épi. Donc c'est ça l'église, c'est des moments où on pleure avec ceux qui pleurent et puis des moments où on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Voilà, maintenant on va laisser toute la place à notre orateur du matin, c'est Malik, qui va nous laisser une dernière fois un message avant de partir. Il part pour la Suisse à partir de cet été, pour un nouvel horizon. Mais ce matin, il avait à cœur de nous partager quelque chose pour l'Église et vraiment, on veut lui laisser toute la place maintenant. Bienvenue Malik.
Merci RP. Merci le groupe de louanges. Vous faites toujours un travail cool et... C'est bon de louer la présence de Dieu ensemble et d'être dans la présence de Dieu ensemble. Je remercie l'équipe pastorale de me faire confiance. Et à chaque fois qu'ils me demandent de prêcher, je me dis, est-ce qu'ils ils apprécient vraiment mes messages ou est-ce qu'ils sont pas un petit peu fous? Et je me dis peut-être que c'est un peu des deux en fait, parce qu'il faut vraiment être fou amoureux de Dieu pour... faire le travail qu'ils font et je les remercie de la confiance qu'ils m'accordent. Je vous propose de prier parce que moi j'en ai besoin. Seigneur, je te remercie pour ce temps, je te remercie pour les choses que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, merci parce que ton amour il est tellement grand. On est si petit, si insignifiant devant toute ta gloire, mais toi, tu choisis de nous aimer et tu nous aimes d'un amour infini, Seigneur. Et je te remercie pour ça. Je te prie que tu n'endurcisses pas nos cœurs ce matin, mais que tu nous rendes à l'écoute, que tu nous rendes enseignables, Seigneur. Merci parce que ton esprit nous renouvelle ce matin et au travers du message, Seigneur, on veut se rapprocher de toi aussi. Amen. Alors, Londres, 1736. Le père d'un jeune garçon, alors âgé de 11 ans, décide d'emmener son fils sur un bateau dont il était capitaine. Ce fut le commencement d'une jeunesse pleine de périples en mer, de voyages, de mauvaises relations à l'alcool pour ce petit garçon. Par la suite, ce jeune homme allait devenir un maître d'esclaves dans une plantation en Jamaïque, mais il fut appelé à intégrer la Navy britannique, l'armée. Il a essayé de s'échapper, mais il s'est fait attraper et il a reçu 96 coups de fouet. Il était fréquemment confronté au meurtre ou au suicide. Et il nous écrit lui-même plus tard, « J'étais capable de tout ». Plus tard, on lui donna la possibilité d'intégrer le marché de l'esclavage sur un vaisseau en Afrique de l'Ouest, ce qu'il fit pendant plusieurs années. En 1748, il avait alors 23 ans, lors d'un voyage retour vers l'Angleterre, son bateau dut traverser une terrible tempête. Pensant qu'il allait couler, le jeune garçon pria pour sa délivrance. Et il fut délivré. Peu de temps après, alors qu'il était à nouveau sur un vaisseau d'esclaves, qui se dirigeait vers les Antilles cette fois, il tomba malade d'une violente fièvre et demanda encore et encore la grâce de Dieu. Et Dieu pourvu. Ces expériences changèrent la vision qu'avait ce jeune homme à propos de Dieu, mais pas sa façon de vivre. Du moins, au départ. Il continua à être capitaine de navire marchand, et quand il souffrit d'un accident vasculaire cérébral en 1754, il abandonna complètement sa carrière de marin. 3 ans après, il demanda à intégrer le clergé de l'église anglicane et ne fut accepté comme prêtre que 7 ans après sa demande. En 1788, 34 ans après qu'il eut quitté le commerce d'esclaves, il renonça à tout son passé en publiant un pamphlet « Pensée sur le marchandage d'esclaves » qui décrivait les conditions horribles des êtres humains subissant l'esclavage sur les navires. Ce pamphlet eut un rôle majeur dans la décision parlementaire d'abolir l'esclavage en Grande-Bretagne, juste avant la mort de cet homme. Mais cet homme nous a laissé autre chose qu'un pamphlet. Cet homme, c'était John Newton, auteur du chant « Amazing Grace »,« Grâce infinie », écrit en 1772. Ce chant révèle la honte et la culpabilité qu'a ressenti Newton par la suite, en participant au commerce d'esclaves. Il nous révèle aussi sa gratitude envers Dieu pour la grâce dont il lui a fait preuve. Et imaginez donc la puissance de ce chant qui nous dit dans son texte d'origine « Grâce incroyable, quel doux son qui a sauvé un malheureux tel que moi. J'étais perdu, mais tu m'as retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et dans tous les dangers, le labeur et les pièges que j'ai pu traverser, c'est ta grâce qui m'a ramené sain et sauf si loin. Et c'est ta grâce qui me conduira à la maison. » Quel témoignage fort et inspirant, n'est-ce pas ? Ça nous montre que n'importe qui peut se repentir de ses fautes et au travers de la louange bénéficier de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, quelques paroles du chant ont été modifiées, notamment par le chanteur américain Chris Tomlin, à l'occasion de la sortie du film du même titre, Amazing Grace, en 2006. Et il a rajouté ces paroles qui ne sont pas sans importance. Ça nous dit « Mes chaînes enfin sont enlevées ». Ça nous rappelle bien évidemment les chaînes des esclaves qui sont tombées suite à l'abolition de l'esclavage, mais elles font aussi écho aux chaînes de notre vie. Ces chaînes qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu, les chaînes du mensonge, de la culpabilité, de nos addictions à la drogue, à l'alcool ou à la pornographie, les chaînes de la dépression, de l'anxiété, du découragement, des pensées suicidaires, les chaînes de la rancœur ou de l'amertume. Et je crois sincèrement que Dieu peut nous libérer de ces chaînes, si on fait appel à lui, bien sûr, et que l'on recherche sincèrement sa face dans la louange. Et l'introduction de mon message aurait pu être en lien avec ce qui se passe dans l'actualité des dernières semaines aux États-Unis, en France et dans le monde. Et je crois sincèrement qu'en tant que chrétien, on doit prendre position contre le racisme sous toutes ses formes. Mais ce ne sera pas le thème de mon message aujourd'hui. Ce matin, les pasteurs m'ont demandé de continuer la suite du message que j'avais apporté sur la louange au mois de mars. Et donc ce sera un enseignement théologique et historique sur la louange, mais vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. On sera encouragés ce matin. On aurait pu donner comme titre de ce message l'utilité, la raison d'être et le pouvoir de la louange qui rend gloire à Dieu, de la louange qui transforme les vies. Alors, petit rappel du dernier message. On avait vu fin mars que la louange, c'est l'adoration, l'exaltation, la magnification de quelque chose. Et bien évidemment, dans notre contexte, ce quelque chose, ce sera Dieu. Mais la louange dans la Bible, on avait vu aussi que c'était quelque chose de plus profond dans son origine. Et c'est d'ailleurs une des traductions en hébreu qui correspond à marcher vers, s'approcher de quelque chose, en faire son objectif, son but. C'est la chose dont laquelle on désire être le plus proche. Alfred Kuhn nous dit que Par la chute, l'homme s'est détaché de Dieu. On a voulu devenir autonome en ne reconnaissant aucune autre loi que les nôtres. Mais quand on prie, on manifeste le désir de renouer les relations avec Dieu. On reconnaît qu'il est souverain et on désire partager quelque chose avec lui. C'est comme ça qu'on le glorifie. Vous pourrez lire Romains 1:21 chez vous. Alors comment on partage quelque chose avec quelqu'un ? Ben, pour partager quelque chose avec quelqu'un, il faut se rapprocher de cette personne. Et avec Dieu, on peut se rapprocher par la prière. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre louer et prier ? Ça dépend à quelle époque dans l'histoire et la façon dont le culte s'organisait. On pourrait rapidement faire un historique de la louange et voir que ça a été quelque chose qui a beaucoup évolué au fil des siècles. D'ailleurs, dans les deux premiers siècles de l'Église, la louange est devenue beaucoup plus formelle, structurée en deux parties, avec un message et ensuite la communion. Le problème avec la communion à cette époque-là, c'est que les riches venaient en premier. Et ils prenaient la communion, donc à l'époque c'était un repas, et ils mangeaient tout. Et après, les plus pauvres, quand ils avaient fini le travail, ils venaient à la fin. Et du coup, il n'y avait plus rien pour eux. Et ça, d'ailleurs, ça énervait profondément Paul. Au IIIe siècle, la louange a été affectée par la persécution. Et elle se faisait plutôt dans les maisons, la louange, du coup. Au IVe siècle, la louange a changé quand le christianisme est devenu une religion d'État, en 380. Et la liturgie, en Orient, elle était influencée par le mysticisme et un certain amour de la beauté. On voulait apporter un goût de ce que sont les cieux à l'assemblée, en utilisant des icônes, des couleurs, des magnifiques décors avec des croix, des lances qui rappellent la passion. Tout ça pour l'amour de la beauté qui était inspiré par les Grecs à l'époque. Et en Europe, la liturgie, elle était moins ornée. Et le baptême devint un rite d'initiation un peu plus complexe. Et la musique commence à se développer de plus en plus dans l'Église. Entre le 5e et le 14e siècle, on fait un grand pas, la célébration de la messe devint la priorité. Dieu était quelque part devenu lointain et la voix de l'esprit devenait inaudible. Des croyances de superstition commençaient à apparaître et la parole qui était jusqu'alors l'élément central de l'adoration était devenue obscure parce que personne ne comprenait ce qui se disait en latin. Et la musique de style grégorien était devenue plus professionnelle, donc moins accessible pour tout le monde. Ensuite, on passe à la réformation du 15e au 16e siècle. Pardon. Et là, les réformateurs cherchaient à changer les choses dans différents domaines, en rejetant la transsubstantiation, par exemple, en restaurant l'importance de la parole, en discutant de la fréquence des réunions et de la place de la musique dans la louange. Et dans la louange moderne du 17e au 21e siècle, les protestants évangéliques ont mis l'emphase sur l'expérience personnelle avec Dieu. Si on regarde les hymnes comme « Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère », qui est à la base un poème du Suédois Karl Boberg, qui a été inspiré par la peur qu'une tempête peut produire et qui a été mis en chant par la suite par le missionnaire Stuart Hine, on parle bien dans ce chant d'une expérience personnelle. Et si vous regardez les hymnes, de façon générale, c'est vraiment des expériences personnelles que la personne fait avec Dieu. Et ensuite, il y a eu le gospel, les spirituals des esclaves noirs qui chantaient des chants d'espérance dans les champs de coton. Et on arrive aujourd'hui avec l'évolution de la musique, des instruments, de la technologie. Et parfois, j'entends des gens qui disent dans les églises « Non, mais la vraie louange, c'est ce type de musique, c'est ce type de chant ou ce type d'instrument. » Mais on voit bien que depuis le IIe siècle, le moyen de la louange, il a évolué. On n'utilise pas les mêmes instruments, on n'utilise pas les mêmes technologies. Mais le cœur, le message et l'objectif de la louange restent les mêmes. S'approcher de Dieu et lui rendre gloire. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est à l'époque où le temple existait encore, la louange qui brûlait, les sacrifices, ils se trouvaient dans la cour intérieure. Et quand on faisait des sacrifices, bah, désolé pour l'image, mais il y avait du sang partout. Il fallait d'ailleurs même asperger certains endroits. Et du coup, à cause de la mauvaise odeur, il y avait les essences dans le lieu très saint. Et ça, ça se trouvait dans la cour intérieure. Et les essences, la bonne odeur dans la Bible, ce sont des images qui correspondent aux prières et à la reconnaissance. Donc la bonne odeur, ça correspond dans la Bible à la prière. Et donc c'est intrinsèquement lié, la prière et la louange, le sacrifice. si on n'a pas la prière comme base de notre louange, c'est comme de la louange qui sent mauvais parce qu'on n'a pas les essences. Si on a le sacrifice, mais pas la prière, si on a la louange sans prière, alors notre louange, elle sentira mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui ne satisfait pas vraiment Dieu. Dans le contexte moderne actuel, la prière peut facilement s'orienter sur le besoin, notre besoin, la supplication. Mais la louange, ça nous positionne dans une situation qui permet de reconnaître que Dieu est suffisamment grand pour qu'on puisse lui demander des choses. Donc la louange, c'est une action. La louange, c'est proclamer les promesses de Dieu aussi, mais c'est une manière de prononcer ce que Dieu a prononcé d'une certaine façon. Dieu, il a créé la terre juste avec sa parole. C'est incroyable. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit et la lumière fut. La lumière fut juste avec la parole. Donc imaginez ce que nous qui sommes remplis de l'Esprit de Dieu, on peut faire quand on loue sincèrement tous ensemble, d'une seule voix. On a été créé pour louer et l'humanité a forcément tendance à louer quelque chose. Quand on loue quelque chose, ça veut dire qu'on est passionné par cette chose et qu'on veut tout savoir à propos de cette chose. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. Louer Dieu, c'est tout simplement apprendre à le connaître. Alors, il y a un petit problème. Parfois, on commence à adorer autre chose que Dieu. Certaines personnes adorent des règles. Ou même, on commence à adorer la louange au lieu d'adorer Dieu. Et Michel Schneider, notre pasteur, dit souvent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des adorateurs de la louange. On loue une chanson, un style de musique, un écrivain, un groupe de musique. On loue le don de quelqu'un. Et toutes les générations, quelque part, ont la tentation de détourner la gloire de Dieu sur eux-mêmes. Ça prend différentes formes, mais à chaque génération, ça a commencé dans le jardin d'Éden déjà. Puis, par la suite, le peuple a loué des faux dieux. Et aujourd'hui, certaines personnes louent des stars. L'homme a tendance à s'éloigner de Dieu. Je pense que c'est important qu'on ne fasse pas l'erreur d'oublier qui nous louons et à qui la gloire doit être rendue. Vous voulez une raison de louer Dieu ? Levez-vous demain matin à 5h25 et allez voir le lever du soleil. C'est quelque chose qui se reproduit tous les matins. C'est un miracle. C'est Dieu qui a créé ça. Et nous, on a l'occasion de voir cette merveille tous les matins. C'est pas une raison de louer Dieu, ça ? Je pense que Dieu mérite notre louange. Il est partout et je pense qu'il y a aussi qu'il faut qu'on regagne le respect et la crainte de Dieu. On a tendance à prendre les choses trop à la légère, j'ai l'impression. Et je parle pour moi-même, je pense que c'est important qu'on se remette devant Dieu et qu'on se dise « Oui, Dieu est notre consolateur, il est notre défenseur, il est notre ami, il est notre père ». Mais il est Dieu. De la bonne musique, on peut en trouver partout. Mais la puissance, la gloire de Dieu, la gloire qui nous transforme, ça, on peut l'avoir qu'en le louant, parce qu'il le mérite. Alors, au fur et à mesure des années, il y a deux catégories de louanges qu'on pourrait classer qui sont rendues vraiment très intelligibles. Il y a la louange personnelle, c'est la louange qu'on apporte nous-mêmes à Dieu, par opposition à la louange collective. La louange personnelle, elle peut s'apporter n'importe où, dans sa chambre, dans le bus, dans le métro, dans la salle de bain, n'importe où. La louange personnelle, elle peut s'apporter constamment. Que ce soit par la prière, on l'a dit, mais aussi par le fait de penser à Dieu, par le fait, encore une fois, de vouloir se rapprocher de lui. Ecclésiaste 9 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour glorifier Dieu. » Donc il y a plein de choses, tout ce que notre main elle pourrait faire, on pourrait le faire pour glorifier Dieu, pour louer Dieu. Et de nos jours, les gens, ils ont tellement de mal à passer 10 minutes sans regarder leur téléphone, ils passent des heures sur Internet, à regarder des films sur Netflix ou à jouer à des jeux, moi le premier d'ailleurs. Mais partout sur la Terre aujourd'hui, on se rend compte qu'on a trop de distractions, qu'il faut réduire le temps sur les écrans, qu'on a besoin de temps pour soi, pour aller mieux. Et les gens se mettent à méditer. Alors qu'en fait, ce dont on a vraiment besoin, c'est de passer du temps seul à seul avec Jésus, avec la parole. Et je crois sincèrement que ça devrait devenir une de nos priorités aujourd'hui. Et la Bible, elle nous parle de plein de façons différentes de louer Dieu, de façon personnelle, et qui traduisent le mot louange. On pourrait parler de abad, en hébreu, qui est traduit par « rendre un culte » dans Exode 3.12. « Je serai avec toi, reprit Dieu, et pour te trouver, et pour te prouver pardon, que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne aussi. » Pardon, il y a mon accent arabe qui revient de temps en temps. Et abad, qui veut réellement dire « servir » en hébreu. Il y a aussi les mots « barak » ou alors « chacha », désolé pour mon accent hébreu du coup, ou « proskuneo » en grec, qui veulent dire « se prosterner, se mettre à genoux et bénir Dieu ». Je crois qu'il y a quelque chose d'humiliant à se prosterner devant Dieu, non ? Mais c'est aussi se rapprocher de lui humblement et reconnaître qu'il est notre maître, qu'il est le Tout-Puissant. On trouve aussi le mot « yada » en hébreu, qui veut dire « lever les mains » dans la louange. Lever les mains comme une extension de notre corps vers Dieu pour l'adorer avant même qu'il agisse. Il y a le mot aussi en hébreu « halal », pas comme la viande, hein, mais qui veut dire « briller », proclamer avec assurance. Presque de façon absurde ou folle, comme quand David dansait devant le Seigneur. Encore un autre, latreuo en grec, qui est le fait de rendre service, de rendre hommage, faire une offrande ou exercer un service sacré. Tout ça, c'est des expressions qui ont été traduites pour le mot louange. Et il y a tellement de façons, mais ce que Dieu nous demande, c'est qu'on le fasse en esprit et en vérité. Prenez du plaisir à passer du temps avec Dieu. Laissez-vous conduire par lui. Il n'y a vraiment pas de règle si ce n'est explorer et s'attendre à lui. Soyez créatifs pour pouvoir vous rapprocher de lui aussi. David a modelé quelque chose de très profond concernant sa posture dans la louange. Dans un monde où les gens louaient des idoles, David a trouvé un moyen de louer dans les bons moments comme dans les moments difficiles, parce qu'il avait une posture humble. Et même après qu'il ait commis sa plus grosse erreur, il a trouvé un moyen de se repentir en se prosternant devant Dieu. Et d'ailleurs, si vous, aujourd'hui, vous avez cette pensée, que vous avez fait quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous avez fait et que vous regrettez, et que vous êtes dans une saison où vous pensez qu'elle vous disqualifie de votre appel à Dieu, de vous rapprocher de lui, est-ce que je peux juste vous rappeler qu'on sert un Dieu plein de grâce, et on l'a chanté dans quasiment tous les chants tout à l'heure, les bras de Dieu sont ouverts, d'accord ? Il y a quelqu'un qui veut vous emmener loin de lui, qui veut vous faire taire, qui veut que vous ne soyez pas entendu quand vous priez ou quand vous chantez. Mais le cœur de Dieu est de votre côté. Dieu vous a donné des dons et des talents et il veut que vous les utilisiez tous les jours. Donc ne vous laissez pas submerger par le sentiment que vous n'êtes pas qualifié pour faire ce que vous devez faire. Apportez votre louange en tout temps, même quand ça ne va pas. Et pour apporter ma louange personnelle et passer du temps avec lui, moi j'aime prendre mon temps, justement, et aller dans mon lieu secret. Et je ne vous parle pas des toilettes. Le lieu secret, c'est le lieu qui te permet d'enlever toute distraction, de te concentrer sur Dieu. C'est un lieu qui doit être plaisant, qui nous donne envie d'y aller. C'est un lieu où on n'a pas besoin de faire semblant, où on peut être honnête. Pour certains, ça peut être dans un café avec des écouteurs. Pour d'autres, c'est dans leur chambre ou dans leur salon sur un rocking chair. Pour d'autres encore, c'est dans la forêt. Et selon la période de ma vie, pour moi, ça a changé ce lieu. Quand j'étais en Australie, par exemple, j'aimais bien prendre le train jusqu'à Katoomba et aller en montagne le samedi. Et je me posais sur un tronc d'arbre en particulier que j'avais repéré dans la montagne. Et je prenais mon petit journal et j'écrivais dedans, je lisais des versets de la Bible et je réfléchissais à Dieu, j'essayais de comprendre ce qu'il voulait me dire au travers des messages. Parfois je prenais mon carnet de chants et j'écrivais des poèmes ou des chants dedans, avec mon petit stylo à encre. J'écrivais mes sujets de prière et puis après le fait de marcher en montagne, ça me permettait de réfléchir à ce que j'avais écrit, à ce que j'avais lu ou à ce que j'avais prié. Quel est ton lieu secret ? Est-ce que tu as un endroit qui correspond à ta tente de la rencontre. Je crois que c'est dans ces moments-là que je rencontre moi personnellement le mieux Jésus. Pas sur une plateforme dans l'église, pas devant les autres, mais Dieu et moi. Et c'est là qu'il me parle. Parfois, je me retrouve à genoux quand j'ai vraiment besoin de lui demander pardon pour des choses que j'ai faites. Et je me dis, mais mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Ou quand je prie très fortement pour quelqu'un qui est malade. Et c'est là aussi que Dieu commence à semer des choses dans nos cœurs, dans la louange sincère, dans la prière sincère. C'est là qu'il donne une vision aussi pour le futur, des idées pour résoudre les problèmes qu'on rencontre la semaine. C'est le lieu où on peut être honnête avec Dieu. Et Taya Smith, qui est une chanteuse en Australie pour l'église Hillsong, dit que si quelqu'un trouvait le journal dans lequel elle écrivait, elle mourrait probablement de honte. Mais elle dit aussi qu'il y a quelque chose dans le fait d'être honnête avec Dieu qui est vraiment libérateur. Et une fois qu'on a donné ça à Dieu, on n'a plus besoin de s'y attacher. Combien de temps est-ce que tu donnes à Dieu dans ta semaine, juste avec lui, pour le louer, pour prier et pour l'entendre parler? Parce que c'est là que ça commence réellement la communion avec Dieu. Quelle offrande de temps tu apportes? Dans la famille de ma fiancée, qui est la femme la plus belle du monde, je tiens à le dire, tous les jours après le repas, en famille, ils prennent un temps pour lire la pensée du jour et des versets dans la Bible. Et ils prient ensemble, toute la famille, avec les enfants. Tous les jours après le repas, c'est la tradition, c'est la coutume. Et moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup parlé, parce qu'ils prennent ce temps ensemble dans la communion. Alors oui, ça coûte quelque chose de prendre du temps, parce que le temps, aujourd'hui, on en a de moins en moins, j'ai l'impression. Mais je crois sincèrement que la louange, elle doit coûter quelque chose. Si elle coûte rien, alors à quoi ça sert de la donner? Il en est digne, il est digne d'un grand prix, d'un immense sacrifice. Et David nous dit dans 1 Chronique 21 au verset 24, ou alors dans 2 Samuel 24-24, c'est le même verset exactement, on le trouve deux fois dans la Bible, « Je n'apporterai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. » Et on le voit aussi dans l'histoire avec Caïn et Abel. Je crois que Dieu prend plaisir dans les sacrifices qui coûtent quelque chose. Amos 5, 21-24 dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » On voit bien dans ce passage qu'on a beau faire des pieds et des mains, on a beau faire tout ce qu'on veut, mettre tout ce qu'on veut comme moyen, ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur, c'est la justice, c'est la droiture. Mon troisième point, on a parlé de la louange personnelle, maintenant on va parler de la louange collective. Et j'aime bien cette citation de Hayden Wilson-Tozer qui dit, qui est un pasteur et auteur américain du début du XXe siècle, et qui dit « Avez-vous déjà pensé que 100 pianos accordés au même diapason sont automatiquement accordés les uns aux autres ? Ils sont accordés non l'un à l'autre, mais à la note à laquelle chacun doit individuellement s'incliner. Ainsi, 100 fidèles regardant à Christ, réunis ensemble, sont mieux unis que si chacun détournait ses yeux de Dieu dans le but de devenir uni. » La louange, elle apporte l'unité. Quand on chante ensemble, on est unis tous ensemble devant Dieu. Et ça crée toujours de la communion. On oublie nos différences, que ce soit nos dénominations, notre culture, nos origines. C'est ce qui apporte de l'unité au corps et à la communauté. Et la louange a aussi une portée eschatologique de l'Église. Plus tard, au ciel, on continuera à louer Dieu avec tous les anges. Jésus lui-même a chanté des chants le jour avant sa mort. Et le livre de l'Apocalypse 19, versets 1 à 6, nous dit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité. » Et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen! Alléluia !» Et une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez. » On a parlé de la crainte, une crainte qui est saine. Hein. « Petits et grands, et j'entendis comme la voix d'une foule immense, une foule immense. » Imaginez tous les croyants qui se retrouvent au paradis et qui louent Dieu tous ensemble. « Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. » Il y a un chant d'Elevation Worship aux États-Unis qui est sorti il y a quelques semaines, et ma fiancée m'a interpellée sur ce chant, elle m'a dit « si tu l'écoutes, on en parle après. » Ce chant, il dit « Que ferais-tu si Jésus était dans la pièce ? » Qu'est-ce que tu ferais si Jésus, il apparaissait devant toi, là, comme ça ? Comment tu réagirais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu te mettrais à genoux ? Est-ce que tu serais ébahi ? Est-ce que tu te mettrais à pleurer ? Qu'est-ce que tu ferais, là, si Jésus, juste là, maintenant, tout de suite, il ouvrait la porte de ta pièce, là, de ton salon, de ta cuisine, de ta chambre ? Et il se présentait devant toi, dans toute sa gloire. Comment tu réagirais ? Moi, ça m'a fait me poser des questions, ça. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je ferais ? Et la suite du chant, elle dit, mais en fait, Jésus est là. Jésus est présent dans cette pièce. Alors comment tu réagis dans la louange ? Qu'est-ce que tu vas lui apporter ? Qu'est-ce que tu vas lui donner ? Comment tu vas lui montrer que tu l'aimes ? Est-ce que tu vas garder les mains dans les poches pendant la louange ou les bras croisés parce que tu as mangé un citron ? Ou est-ce que tu vas lever les mains ou t'agenouiller ou danser et être libre en fait de faire ce que tu as envie de faire et de le louer comme tu l'entends mais d'un cœur vraiment sincère, d'un cœur sincère. N'attendons pas que les choses se passent. Jésus attend notre louange. Dans psaume 122, qui s'intitule dans ma Bible « L'entrée dans la présence de Dieu », chant de montée, on voit toutes les tribus d'Israël qui se réunissent à Jérusalem pour louer. Et j'aime cette image que tout le monde se réunisse dans un même but. L'unité dans la louange ou dans la prière, c'est quelque chose de merveilleux. Se sentir soutenu. Parfois, quand je vais en Suisse, je vais dans une église mennonite. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment le type de louange dont j'ai l'habitude. Pas le type de chant aussi, je ne les connais pas forcément. Mais ce qui m'a touché, c'est que de là où j'étais, c'est-à-dire tout devant, j'entendais toute l'église chanter de tout son être, avec des voix différentes. Chacun prenait sa place réellement. C'était vraiment magnifique. Chacun apportait sa petite touche et tous ensemble, en tant que membres du corps, on apportait une louange commune. Je crois que le but de la louange collective est vraiment de se réunir pour Dieu en tant que membres d'un même corps, pour apporter de l'unité et de la cohérence entre nous. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Toutes les tribus, toutes les personnes qui suivent Jésus. Et quand on se réunit dans ce lieu, qu'on se concentre sur Jésus et pas sur nous-mêmes, c'est là qu'on vit l'unité et la communion fraternelle. Tout comme David se réjouissait d'aller à la maison de l'Éternel avec les siens. Et dans ce psaume, on voit bien que le psalmiste ne prie pas pour sa propre paix ou pour sa propre prospérité à lui. Il prie pour ses frères et ses amis de Jérusalem. Donc la louange collective, c'est un peu comme quand les instruments s'accordent avec une harmonie. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un orchestre philharmonique, mais moi, mon moment préféré, c'est quand les musiciens s'accordent et qu'ils font tous la même note. C'est magnifique. On se réunit tous ensemble pour créer un même son, d'une même voix. On loue Dieu. Et cette louange, elle transcende les générations. Même les enfants peuvent s'y ajouter. La louange chez les enfants, elle a un impact parce qu'ils se souviendront toujours, toujours de ces moments, des chants qu'ils ont chantés quand ils étaient enfants. J'ai eu l'occasion dans mon parcours de faire la louange lors de camps et, d'enfants et d'ados, notamment avec Didier Chastanier. Et j'ai été touché de voir la façon dont il a porté la louange aux jeunes, de les voir pleurer en prenant ce chant qu'il a écrit « Mystère ». Parce que ces jeunes réalisaient l'importance de la croix et de ce qu'avait fait Jésus pour eux. Ça m'a montré que même les enfants pouvaient comprendre le sacrifice de Jésus et qu'ils pouvaient le remercier pour ça et lui demander pardon, mais pour des choses toutes simples. Je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte chrétien, on a le devoir d'être des exemples d'adorateurs pour les générations futures et ceux qui viendront après. Parce que les enfants, ils miment, ils mimétisent, ils font la même chose que nous. Et si on leur montre une louange qui est sans cœur, alors ils auront une louange qui est sans cœur. Alors pour conclure, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Christine Kane. Chris est une enseignante qui parcourt le monde pour prêcher dans des grands rassemblements et elle a déjà prêché au Global Leadership Summit de Chicago et à la conférence Hillsong de Sydney. Elle vient de l'église Hillsong en Australie. Elle a un témoignage particulièrement fort. Elle vient d'une famille grecque-orthodoxe et elle a été abusée sexuellement plusieurs fois alors qu'elle était enfant. Et alors qu'elle avait grandi, elle avait des pensées fortes de suicide. Et parce qu'elle en pouvait plus, elle éprouvait de la honte, de la culpabilité, mais elle a été invitée par des amis à l'église. Elle y est allée en cachette parce qu'elle avait interdiction formelle d'aller dans ce genre de lieu par ses parents. Et elle raconte dans son témoignage que c'est en entendant les chants qu'elle a découvert la grâce de Dieu, qu'elle a découvert la force de Dieu et que Dieu a agi au travers des gens qui avaient servi dans un des moments les plus sombres de sa vie. C'est grâce au service de la personne qui a branché les câbles. C'est grâce au service de ceux qui étaient derrière la sono. C'est grâce au service de ceux qui étaient derrière la vidéoprojection ou les caméras. Ceux qui avaient chanté les paroles, qui avaient fait le ménage pour rendre l'église propre et accessible. Ceux qui avaient chanté de tout leur cœur à ce Dieu et qui ont été utilisés comme un instrument par l'Esprit parce qu'ils avaient apporté leur propre louange à ce moment-là, leur propre sacrifice pour rendre gloire à Dieu. C'est à cause de tout ça qu'elle a évité de se suicider. Et aujourd'hui, Christine Kane, c'est la présidente d'une association, une des plus grandes associations qui combat contre le trafic sexuel et toute autre forme d'esclavage. L'association qui s'appelle A21. Elle est passée du rôle de la personne qui était abusée au rôle de celle qui combat contre ceux qui abusent des autres. Et je crois que Dieu peut utiliser nos plus grandes peurs, nos plus grandes faiblesses, nos plus grandes souffrances pour les transformer en quelque chose de merveilleux pour sa gloire. Voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Comment il peut transformer grâce au sacrifice de louange de chacun d'entre nous. Et ceux qui organisent la louange sont en première ligne. Comme lors de la bataille de Jéricho. C'était les adorateurs avec leurs trompettes et leurs cris qui ont fait tomber le mur par la puissance de Dieu. Et ça demande du courage. Alors prenons du temps pour encourager tous ceux qui organisent le culte. Ici à l'EPI, on a Joël Mutz qui organise et qui chapeaute toute la louange en tant que responsable de la louange, avec le soutien de Léa, d'Emma et de Gabi. Donc prenez le temps quand vous pouvez d'encourager quelqu'un qui participe à ça, de leur écrire un petit message, de les remercier parce qu'ils se donnent à fond. Merci pour la louange ce matin, merci pour ta voix, merci pour le temps que tu investis. C'est des formes de louange ça aussi. C'est pas de la louange pour la personne en particulier parce qu'au travers de ça, vous encouragez quelqu'un et cette personne après, elle va pouvoir rendre son service à Dieu. Juste dites-leur merci. Je vous propose qu'on prie ensemble et qu'on prenne un chant par la suite. Merci Seigneur pour ce don que tu nous fais d'être tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi dans la louange, dans la prière et sous toutes ces autres formes aussi de louange. Je te remercie pour ton sacrifice parce que grâce à ça, tu effaces, tu balayes toutes nos fautes et on peut se rapprocher de toi simplement et humblement. Et je te prie Dieu que s'il y a quelqu'un aujourd'hui devant son écran, à la maison, qui a besoin de s'approcher de toi et qui se dit « mais je peux pas » ou alors qui ne connaît pas Dieu et qui a été touché par ce message, qui ne te connaît pas. Seigneur, je te prie que tu viennes leur parler et qu'ils puissent simplement dire que tu es leur maître, que tu es leur Seigneur, que tu es leur Dieu. Simplement le fait de dire ça et d'accepter nos fautes, d'accepter qu'on est pécheur, ça nous permet de nous approcher de toi, Seigneur, et d'être sauvés. Alors je te prie pour chacun aujourd'hui, qu'au travers de notre louange sincère, honnête, avec un cœur sincère, que tu puisses nous faire du bien, Seigneur Jésus. Amen.
Tout puissant.
Amen. Que vraiment on puisse garder dans nos cœurs ce qu'on a reçu. Et vraiment, on le croit à l'épi, il y a une puissance dans la louange, alors qu'on ne se prive pas quand on est réunis et quand on le sera, mais qu'aussi à la maison, vous puissiez prendre ces temps personnels avec Christ pour le chanter, pour le louer, pour méditer sa parole, pour l'adorer, bref, pour être avec lui. Il se passe des choses dans la louange. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous chaque jour. Il est à nos côtés. On veut vraiment remercier Malik pour ce qu'il nous a apporté ce matin. Et vraiment, on veut vous souhaiter encore à tous une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.